Frères et sœurs, bienvenue à tous et à chacun, chacune, pour ce temps de culte que nous allons vivre ensemble. Je vous invite à vous lever. Demandons au Seigneur de bénir ce moment. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voici rassemblés en ce jour, jour de joie pour ton Église. Seigneur, donne-nous ton esprit, comme tu nous l'as promis, qu'il se saisisse de chacun, chacune d'entre nous, et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence, qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui nous ferons toutes choses nouvelles. Oui, vienne le jour, Seigneur, où la terre entière proclamera « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Amen. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Nous louons Dieu avec le psaume 85. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de tous ceux qui le craignent, et la gloire habitera. Et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Nous chantons le psaume 8. Le psaume 8, page 40, les strophes 1, 2 et 3. Prenez place. Bienvenue pour ce culte du 14 juillet, jour de fête nationale. Alors, on serait en Suisse, il y aurait un cantique pour la fête nationale. Ah oui. Mais bon, en France, ça va être difficilement jouable. Donc, je vous souhaite une joyeuse fête nationale, mais on restera à peu près là pour le culte. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé du grain, du bon grain, dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Il a semé de l'ivraie au milieu du blé et s'en est allé. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé du bon grain dans ton champ ? D'où vient-il donc qu'il y ait de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez le blé avec elle. » Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je vous invite à la prière. C'est vrai, Seigneur, qu'en nous se côtoient le bon grain et l'ivraie. Le bon grain de ta parole et l'ivraie de nos craintes et de nos plaintes, de notre égoïsme et de nos avarices, de nos peurs et de notre torpeur, de notre sécheresse et de nos petitesses, de notre cupidité et de nos méchancetés. Alors, Seigneur, pardonne. Ne laisse pas notre ivraie étouffer le blé de ton évangile. Accorde-nous d'accueillir la bonne semence de ta parole, de la cultiver et de la laisser croître en nous. De tous mes maux, il me guérit. Dans l'épître de Jacques, nous trouvons l'affirmation suivante « Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles ». Ce verset contient deux bonnes nouvelles. Dieu résiste aux orgueilleux, il ne laisse pas le monde succomber entre les mains des prétentieux, il pose une limite au pouvoir des vaniteux. Deuxième bonne nouvelle, Dieu fait grâce aux humbles. Il accueille la prière des mendiants, de ceux qui ont un cœur d'enfant. Aujourd'hui, Dieu a entendu ta prière, il résiste à ton orgueil et à ta vanité, il accueille ton humilité et t'accorde son pardon. Amen. Ô ma joie et mon espérance, nous pouvons nous lever. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. De ton esprit emplis nos êtres. Pour aujourd'hui, une lecture, mais en deux fois. La semaine dernière, j'avais prêché sur l'épître de Tite, et je me suis dit pour cette semaine, pourquoi ne pas continuer sur la lancée, de prendre des épîtres un peu délaissées. Et je propose d'écouter l'épître à Philémon. Mais avant d'écouter la lecture de cet épître, je vous invite à la prière. Le sage nous l'a dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Avant le temps de la parole, je vous invite à prendre un temps de silence. Accorde-nous, Père, la grâce du silence. Donne-nous de nous taire avant d'écouter. Souffle ton esprit, parle ta parole, qu'elle apaise nos pensées, qu'elle façonne notre fidélité. Amen.
Philémon, versets 1 à 7. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Appia, notre sœur, Archippe, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu.
Philémon, versets 8 à 25. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour étant ce que je suis. Moi, Paul, un vieillard et de plus, maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant il est utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ces dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, Fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt, en réponse à vos prières. Epaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous apporte sa grâce.
Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur. Le Dieu vivant, l'Esprit Prenez place. Philémon, l'épître à Philémon est la plus courte des lettres de Paul et figure parmi les livres les plus courts, les plus brefs de la Bible. C'est même possiblement le plus bref de tous. Nous l'avons d'ailleurs entendu en son entier. À tel point qu'il n'a pas de numérotation en chapitre, directement les versets. C'est aussi probablement la plus personnelle de la littérature paulinienne. Et personne, aucun expert, ne remet en question l'authenticité de son écriture par Paul. Le motif de l'épître est une double demande à Philémon. La demande majeure est la grâce de l'esclave Onésime, et la mineure de lui préparer, à lui, Paul, de lui préparer un logement lors d'un séjour qu'il espère proche. C'est évidemment la première demande qui constitue le cœur de la lettre. Alors, reconstituons les faits de notre mieux. Onésime est un esclave qui a fui la demeure de son maître Philémon pour rejoindre Paul qui l'a converti. Alors qu'il était en détention, Paul renvoie à son maître Onésime, porteur d'une lettre. Ce sont les seuls faits établis dont nous disposons. Le reste ne sera que supposition, même si certaines semblent plausibles. Voilà. Il est nécessaire d'abord de se débarrasser de quelques approximations que nous avons sur l'esclavage antique. Lorsque on prononce le mot « esclavage », il y a bien des chances que nous pensions immédiatement au commerce triangulaire, aux Africains arrachés à leurs terres pour trimer dans les plantations américaines. Cette réalité terrible n'est pas celle de l'esclavage antique, qui est terrible aussi, hein, mais il faut enlever ce modèle de votre esprit quand on réfléchit à l'esclavage de l'Antiquité. L'origine des esclaves de l'Antiquité est principalement européenne et méditerranéenne. Je dis principalement. Il n'est pas racial. Les conditions de vie d'un esclave de l'Antiquité varient énormément en fonction de ses compétences, donc de sa valeur marchande, et de sa fonction. Les esclaves agricoles, ou pire, dans les mines, ceux des mines, ont eu une existence misérable et souvent très courte. Les esclaves dits domestiques peuvent parfois, avoir une vie assez agréable. Ils restent néanmoins propriété de leur maître et leur fuite est sanctionnée très sévèrement. Onésime fait, selon toute apparence, partie de la deuxième catégorie. Est-il un esclave en fuite? Eh bien, ce n'est pas si certain. Il semblerait qu'une certaine coutume existait et qui permettait aux esclaves ayant déplu à leur maître de se réfugier chez un ami de celui-ci, afin de laisser la colère du maître retomber, et que l'ami plaide auprès de son ami la cause de l'esclave. Et il est tout à fait possible que ce soit le cas de figure que l'on trouve ici, puisque Paul parle d'un tort qu'aurait pu causer Onésime, bien que ce tort pourrait être la fuite elle-même. Alors on s'est bien sûr interrogé sur la raison de la présence dans le canon, dans la Bible, de cette lettre qui peut sembler quelque peu anecdotique. Cette lettre, toute personnelle qu'elle soit, n'est pas un courrier privé. Il est adressé à Philémon, à sa famille et à l'église qui se réunit dans leur maison. Peut-être Paul a-t-il voulu prendre des témoins contre Philémon. Et ce serait un des premiers reproches qu'on adresse à Paul dans cette épître. Paul tente de manipuler son disciple Philémon. Le deuxième reproche, plus essentiel, est que Paul semble légitimer l'esclavage. Paul manipule-t-il Philémon? Oui et non. Il fait usage de toutes les méthodes mises à sa disposition par la rhétorique. Il commence par dire du bien, des choses sur lesquelles lui et ses lecteurs sont déjà d'accord. Il apitoie son auditeur en se qualifiant de vieillard, de prisonnier. Il rappelle tout ce que lui doit Philémon, tout en lui disant qu'il n'en fera pas état. Il fait lui-même un jeu de mots d'ailleurs, en disant qu'avant, Onésime lui était inutile. Onésime, c'est un nom typique d'esclave, signifie justement utile. Donc il lui dit, l'utile t'était inutile auparavant. Ce qui serait de la manipulation, tout cela serait de la manipulation, si Paul s'adressait à un inculte ou à une personne en état de faiblesse. Mais il est probable que Philémon connaisse tous ces trucs, aussi bien que Paul, et peut-être même mieux, et qu'il en apprécie les arguments. Paul demande quelque chose et Philémon le lui accordera, mais ce sera fait selon les formes, poliment, respectueusement, en ménageant la susceptibilité et l'honneur de Philémon, qui semble ainsi garder aux yeux de tous le dernier mot et ne passe pas pour un faible ou un soumis. Alors non, il ne s'agit pas de manipulation, mais de trouver une sorte de sortie par le haut, qui ne blesse personne. On découvre ici un Paul bien différent de celui qui tonitrue des jugements sans appel. Le second reproche, plus grave, concerne donc l'esclavage. Non seulement Paul n'en remet pas en cause le principe, mais il ne demande même pas l'affranchissement d'Onésime. C'est vrai, mais en apparence seulement. Pas plus qu'il n'entreprend Philémon frontalement, Paul ne critique pas bille en tête l'institution de l'esclavage. Mais il en sape les fondements. Lorsqu'il a admis que l'esclave était son frère, le maître peut-il décemment continuer à le garder comme esclave? Alors j'aimerais tellement vous répondre que ce n'est pas possible. Malheureusement, l'histoire démontrera que certains n'en seront pas empêchés. Mais cela nécessitera de leur part certaines contorsions intellectuelles et spirituelles. La fraternité en Christ réduit à néant la prétention de certains chrétiens d'en posséder d'autres. Vous me direz que cela manque d'universalisme, c'est vrai, mais c'est un début. Le mot fraternité qui se trouve sur les façades de nos mairies, et il est bon de le rappeler en ce 14 juillet, n'est que la version laïcisée et universalisée de cette idée de fraternité en Christ. Et il y a tout lieu de s'en réjouir. Mais même si je pense que cette fraternité universelle reste un peu au principe théorique, idéologique, alors que celle fondée en Christ est une réalité spirituelle, donc plus solide, plus concrète. Lorsque vous avez admis que l'autre était votre frère, votre sœur, vous devez changer votre relation à lui, à elle. Sinon, vous êtes l'hypocrite dénoncé par Jean. Dans l'Épître. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Toute structure hiérarchique est contestée dans son fondement. Nous pouvons admettre des hiérarchies fonctionnelles ou organisationnelles, mais aucune qui concerne les individus en eux-mêmes. Avoir un frère ou une sœur, c'est mieux que de posséder un esclave, surtout que ce frère et cette sœur sont dits bien-aimés ou très chers. Je me suis toujours demandé si Paul était conscient du sabordage sociétal qu'impliquait sa prédication. Je pense que oui, et que cela le terrifiait. Ce qui explique certains passages plus prudents et plus, disons, conservateurs. Mais il ne pouvait s'empêcher de prêcher l'évangile de la liberté. L'épître à Philémon nous apprend ou nous rappelle deux choses. On ne change pas la réalité du monde avec de grands principes et en hurlant fort. Le combat pour un monde réconcilié est avant tout spirituel. Or, la prudence de Paul dans son épître nous démontre qu'un combat spirituel ne se gagne pas à coups d'ordre et d'exigence, mais d'arguments incarnés, d'amour. Amour pour Onésime, bien sûr, et amour pour Philémon aussi. Paul respecte Philémon. Ce qu'il lui demande de faire pour Onésime, Paul le fait pour Philémon. Il le considère comme un frère, un égal, capable de conversion et de changement. Le second enseignement est qu'on ne change pas le monde sans prendre de risques. Paul aurait probablement pu garder Onésime, ne rien dire et laisser les choses en l'état. Mais alors, rien n'aurait été sapé. Rien n'aurait pu être transformé. Paul a pris des risques pour lui et pour Onésime dans cette affaire, parce que cela était important. Il a sans doute fait confiance à son ami, mais il s'est surtout fié à la puissance transformatrice de l'Esprit de Dieu, force capable de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Bien sûr, nous ignorons le fin mot de l'histoire. Que s'est-il passé après? Mais on trouve trace. On trouve trace, une trace épigraphique, d'un saint Onésime, évêque d'Éphèse. On a le droit d'imaginer et surtout d'espérer. Amen. Thank you. Dieu fait de nous en Jésus-Christ, cantique 3604, page 501. Page 500, 3604. Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, confessons la foi chrétienne en proclamant avec Jean-Baptiste « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons que c'est toi, que c'est lui qui est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Avec Paul, qui es-tu, Seigneur? Avec tous ces témoins et l'Église entière, nous proclamons la gloire de Dieu et notre confiance en chantant « Mon seul abri, c'est toi ».
Abri, c'est toi, au jour mon cœur te chantera, car tu me délivres, et de quoi que j'ai peur, je m'appuie sur toi.
Prenez place. Je n'offrirai pas au Seigneur des sacrifices qui ne me coûtent rien. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est maintenant le temps du don, le moment de l'offrande. Seigneur, reçois favorablement ce signe de notre reconnaissance. Nous l'offrons pour ta gloire et pour le service de nos frères. Amen. Agnès.
Quelques annonces. Alors, la première, plutôt pragmatique, nous avons un changement de plan de la circulation sur Annecy qui va s'opérer. Donc, les parkings de la gare et de la poste resteront accessibles, mais les rues Sommeiller et Vaugelas seront semi-piétonnisées.
À terme.
À terme. Mmh. Et l'idée est de leur laisser l'accès uniquement aux véhicules 6 bras et aux véhicules de service. Néanmoins, pour ceux et celles qui ont des personnes en difficulté de déambulation à déposer, il sera toujours possible d'emprunter les voies et de venir déposer ces personnes avant d'aller vous garer. Au niveau de la vie de l'église, nous avons toujours la chorale qui se poursuit tous les mardis, de 19h15 à 20h45. Les repas partage se poursuivent également. Donc les repas partage, je vous rappelle, c'est tous les vendredis midi dans les locaux du Secours Populaire.
Catholique,
je suis vraiment désolée. Rue du Général Ferrier à Annecy, pour les personnes défavorisées. Nous avons paroles et prières tous les mercredis de 18h à 19h. Si certains d'entre vous s'est intéressés, ça se poursuit tout cet été. Vous serez accueillis avec bienveillance. Et puis, vous avez l'ACAT qui lance son nouvel appel. Donc, vous avez l'appel de l'ACAT, vous connaissez le principe, soutien cette fois à Abdoulaye Touré dans sa quête de justice qui est au Maroc. Et puis, il y a aussi des petites nouvelles du journaliste Rida Benotman, libérée après 1 an et demi de prison. Donc, voilà, toujours le même principe et les formulaires de l'ACAT sont à l'entrée. Voilà, c'était tout au niveau des annonces. Merci à Claude Françoise qui est à l'orgue.
Oui, pour revenir au plan de circulation, je vous invite à être attentif parce que certains sens interdits ou uniques vont être inversés. Alors, je ne peux pas vraiment vous dire, j'ai regardé des plans, ça m'a un peu perdu. Donc, soyez attentifs. Ne prenez pas les choses à contresens. Je vous invite à vous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, nous pourrions nous plaindre de ta justice qui n'est pas comme la nôtre. Tu donnes autant à ceux qui sont venus tardivement qu'à ceux qui ont œuvré longtemps. Si nous faisions comme toi, depuis longtemps, nos systèmes économiques auraient fait faillite. Pourtant, nous nous demandons si nos équilibres fragiles en sont vraiment. C'est pourquoi nous te prions pour tous les acteurs de la vie économique et sociale, qu'ils n'agissent pas en égoïste ou avec un esprit de classe, mais pour la justice et le bien de tous. Nous te prions pour les chrétiens engagés dans cette réflexion. Nous te prions pour les églises dans notre monde, qu'elles sachent dénoncer tous les abus, toutes les situations où l'homme exploite ou abuse de son prochain, qu'elles aient aussi le courage d'une parole de générosité. Nous en avons tellement besoin. Ainsi, membres d'une même famille, enfants d'un même Père, nous pouvons dire avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le livre du prophète Ésaïe, nous trouvons ceci. Élargis l'espace de ta tente, tant d'étoiles supplémentaires, ne les ménage pas, allonge tes cordages, consolide tes piquets. L'appel du prophète est pour nous aujourd'hui. Ne te rétrécis pas, mais élargis l'espace de ta vie. Ne t'enferme pas, mais ouvre les toiles de ta tente. Ne t'habitue pas, mais lance des cordages vers l'infini. Ne te satisfais pas, mais cultive les brûlures de l'attente. Sois curieux, ne crains pas, ose l'évangile, risque la parole, et Dieu sera avec toi, et Dieu sera ta joie. Je vous invite à vous lever. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous et avec vos familles. Allez dans la joie de notre Seigneur. Amen. Tu nous appelles à t'aimer.
Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Donne-nous de paix et de tendresse. Cœur d'enfant, soyez simples aimants. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi.
Bon dimanche à tous et joyeux 14 juillet.